De défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5.
CIBL 101.5 Montréal.
CIBL, au cœur de la culture.
C'est intermittent jusqu'à Wellington, vers la rive sud, congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ouais, cool, j'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
CIBL. 101.5.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mardi 16 avril et ici Charline Carreau, votre animatrice pour bien débuter la journée. Et aujourd'hui, je reçois l'illustratrice Arizona O'Neill, désolée ce matin, pour parler de la réédition d'un texte de Nelly Arcan. Et puis on accueillera l'humoriste Noémie Leducroix pour revenir sur son spectacle humoristique Women's Planning Show. Et enfin, notre chroniqueuse Amélie Egerstorfer reviendra sur le prochain match de la Ligue féminine de hockey. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, l'administration municipale présente en ce moment au conseil municipal la stratégie qu'elle souhaite adopter en matière de déneigement pour les 10 prochaines années. Valérie Plante souhaite réformer le mode de fonctionnement en priorisant notamment les trottoirs afin de rehausser la qualité de l'expérience piétonne. Pour l'opposition, cette réforme engendrerait une baisse des services pour les Montréalais. Et ensuite, des manifestants pro-palestiniens ont organisé hier un sit-in dans les bureaux de la Banque Scotia au centre-ville. Le regroupement appelait notamment au boycottage de la banque qu'ils accusent de financer le génocide de Gaza. Le service de police de la ville de Montréal a procédé à une expulsion des manifestants et en a arrêté 45 d'entre eux. À Toronto, en novembre dernier, les locaux de la Banque Scotia avaient déjà été occupés pour la même raison. On continue sur CIBL avec l'entrevue de l'illustratrice Arizona O'Neill. Et je reçois ce matin l'illustratrice Arizona O'Neill dans le cadre de la réédition illustrée du texte de Nelly Arcan, L'enfant dans le miroir. Bonjour Arizona.
Bonjour.
Le livre est sorti hier, comment ça va?
Ah, ça va très bien. Oui, je suis vraiment excitée de la réception du livre. Ouais.
Pas de stress?
Non, pas de stress du tout.
Ouais, tout va bien alors. L'enfant dans le miroir, c'est donc un texte de Nelly Arcan publié en 2007 et décrit comme un conte cruel pour jeune fille. Qu'est-ce qui est raconté exactement?
Ah, mais il s'agit d'accepter... de laisser son enfance derrière soi et devenir un jeune adulte. Mm-hmm. Mais ça passe sur ses obsessions d'une jeune femme, mais aussi d'être un adolescent avec du acné et aussi des autres relations avec des jeunes femmes. Mm-hmm. Je ne pense pas que c'est cruel. Ce n'est pas comme ça que je le décris.
Très bien. Voilà pour le texte. Et concernant l'autrice, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu Nelly Arcan pour ceux et celles qui
oui.
ne la connaîtraient pas?
Mais je pense que la plupart des gens vont connaître Nelly Arcan, mais Nelly Arcan était une écrivaine québécoise devenue célèbre après son première publication « Putain ». Dans le roman, elle décrit, mais c'est basé sur ses expériences en tant que travailleuse sexe. Elle était en avance de son temps dans ses discussions de le corps et la condition féminin, mais les médias sont devenus obsédés par sa vie et son apparence. Et malheureusement, elle s'est suicidée à l'âge 36 en 2009.
Très bien. Ce texte de L'enfant du miroir, oui. il est sorti en 2007 pardon, mm-hmm. pour une première fois, illustré par Pascal Bourguignon. Mais aujourd'hui, les éditions Marchand de Feuilles réédite ce texte, oui. accompagné cette fois-ci de tes illustrations. Pourquoi rééditer ce texte, selon toi?
Mais je pense que si les livres de Nelly Arcan sont sortis aujourd'hui, la réception, ça serait tellement différent. Premièrement, comme je viens juste de dire, l'obsession avec son corps, c'est pas important pour les femmes. Alors, je pense que quand on lit Nelly Arcand, c'est vraiment difficile de ne pas savoir son biographie. Alors, on le lit avec un lentille sombre. Mm-hmm. Alors, avec cette nouvelle audition, je voulais apporter un nouveau vide dedans, quelque chose d'un peu plus joyeux que de mm-hmm. qu'est-ce qu'on était expecté d'elle en 2007.
Parce qu'en effet, la première édition n'a rien à voir avec la deuxième au niveau des illustrations. La première, comme tu me montrais, est assez sombre. Il y a aussi une typographie qui accompagne mm-hmm. tout ça. Et puis toi, tu as un dessin plus enfantin avec de l'aquarelle. Tu as vraiment cherché, ou en fait, c'est ton style naturel, on va dire, mais le fait qu'on change d'illustratrice donne un autre sens au texte, c'est ça?
Oui, exactement. Et dans la première édition aussi, ce n'est pas l'intégrale non plus. Le focus était mm-hmm. vraiment sur... le focus était sur l'histoire des parents. Alors, celle-là, qui était coupée de l'original, le focus est plus sur son amitié avec Marie-Claude, son meilleur ami dans le livre. Alors, ça, c'est pourquoi la couverture, c'est deux jeunes femmes adolescentes en train d'avoir un corps, mm-hmm. qui partagent un corps. Alors oui, je pense que c'est intéressant que deux différentes illustratrices peuvent prendre le même texte et sortir quelque chose complètement différent. Je pense qu'en lisant avec les nouvelles illustrations, c'est un peu comme le lire pour la première fois.
Mm-hmm. Et ce texte, il est toujours d'actualité, même s'il a été publié il y a 15 ans?
Oui, mais ça, c'est quelque chose que j'adore avec Nelly Arcand. Elle est brutalement honnête de la difficulté de transition entre enfance et jeune femme. Et je pense que c'est quelque chose d'universel et intemporel. Parfois, moi, j'ai l'impression que la personne dans le miroir est un étranger. Mm-hmm. Et je pense que les autres vont penser ça aussi. Mm-hmm. Oui.
Est-ce que tu sais pourquoi on t'a demandé d'être l'illustratrice de cette édition?
Oui, alors j'ai déjà travaillé avec Mélanie Vincelette, la directrice de Marchand de feuilles. J'ai travaillé avec, quand j'ai fait mon bande dessinée, Est-ce qu'un artiste peut être heureux? Elle a pensé que mes illustrations, qui sont un peu plus douces et jouent un peu plus sur mm-hmm. la page enfantine, comme on dit, elle pensait que ça serait un match quand même intéressant parce qu'on a des préconceptions de Nelly Arcand. Alors, je pense qu'elle pensait que ce parallèle, ça serait comme différent pour elle. Mm-hmm.
Ouais. Et pour toi, qu'est-ce que ça représente d'illustrer une des œuvres de Nelly Arcand?
Ah, mais c'est un grand honneur. Moi, j'adore Nelly Arcand. Tu sais, comme j'étais née à Montréal, alors comme toutes les jeunes filles, j'ai lu Putain quand j'avais 20 ans. C'est comme un passage pour des jeunes femmes, je pense, à Québec, de lire Nelly Arcand. Alors, j'ai jamais dit oui à un projet plus vite de ma vie. J'étais vraiment excitée. Ouais.
Mm-hmm. Est-ce que tu connaissais déjà ce rapport, est-ce que tu connaissais déjà ce texte de L'Enfant de miroir et quel rapport tu avais à celui-ci?
Alors, j'ai vu les illustrations originales, mais mm-hmm. j'ai jamais lu le texte parce que c'était comme en intégrale. Ça a déjà sorti dans une collection, mm-hmm. Mais non, je l'ai pas lu. Alors, quand j'ai commencé le projet, c'était comme avec des yeux nouveaux sur mm-hmm. le texte. J'ai tombé en amoureuse D'accord. avec Nelly Arcand en tant que petite fille. Mm-hmm. C'était la première fois que l'histoire est vraiment basée sur ça. Mm-hmm. Alors, oui. T'sais, chaque fois que je l'ai lu plusieurs fois et j'ai sorti les moments où les images étaient plus fortes pour moi. Et c'est comme ça que j'ai l'illustré.
Et tu as lu le texte pour la première fois avant ou après d'accepter l'illustration?
Après.
D'accord. Ouais. C'est un gage de confiance.
J'étais tellement confiante que j'adore ce texte. Ouais.
Au-delà de la lecture, quel travail t'as effectué avant de te lancer dans dans l'illustration, de la recherche, je sais pas.
J'étais déjà je connaissais beaucoup le travail de Nelly Arcand, alors j'ai pas fait beaucoup de recherche avant. J'ai juste lu et relu le texte mm-hmm. et j'ai travaillé sur les illustrations pour 3 mois. Et je me suis mis dans le texte et j'ai rien d'autre lu pour 3 mois. J'ai vraiment comme focusé. C'est moi et Nelly, on a été ensemble pour 3 mois et c'est comme une collaboration avec elle un peu. Oui.
Dans ce livre, tu produis donc une illustration par page de texte. Mm-hmm. Comment le découpage du texte a été effectué? Parce que ce n'est pas toujours la même longueur. On sent qu'il y a quand même des passages sélectionnés à chaque fois.
Oui, alors c'est moi qui ai fait ça.
D'accord.
Ça, c'était peut-être pendant la troisième lecture du livre. J'ai commencé à diviser par image. Alors, tu vois, il y a des fois une page qui a juste une ligne de texte. Et c'est parce que je trouvais que l'image était tellement forte et puissante avec juste une phrase. Alors, c'est moi qui ai fait le découpage, oui. Je pense que c'est cool.
Oui, bien sûr, je confirme. Il y a donc une soixantaine d'illustrations qui accompagnent le texte. Quelle a été ta démarche de création ? Tu as parlé de ce texte que tu as découpé. Ensuite, comment t'as fait ? Tu t'es laissé inspirer par le texte t'as...
Oui, c'était complètement inspiré par le texte. J'ai laissé Nelly Arcand me prendre par la main un peu. Mais je suis toujours inspirée des livres vintage enfants, comme ces sortes d'illustrations. Oui, c'était vraiment les images du texte. J'ai laissé les mots rentrer dans ma tête et former des images. Alors, c'est pour ça que les nouveaux éditions pour des livres illustrés comme ça, c'est tellement intéressant parce que tout le monde va avoir des images différentes. Mais là, c'est bizarre parce que quand les gens lisent le texte, maintenant, ils vont avoir mes illustrations à côté. Alors, je vais rentrer un peu dans la texte, dans les têtes des lecteurs. Mais
ouais, c'est l'objectif. Et donc, est-ce que tu réalisais chaque dessin en une seule fois ou tu revenais dessus, tu retouchais ou c'est vraiment l'inspiration qui guidait tout?
C'était vraiment... J'ai fait un à la fois et je l'ai fait en ordre et je n'ai pas arrêté. Je l'ai fait tout d'un coup. C'était comme le soleil se levait. J'ai dessiné Nelly Arcand. Ça baisait. Là, je dessinais Nelly Arcand. Je suis vraiment... organisé comme ça. Je travaille vraiment 9 à 5 sur mes illustrations.
C'est bien.
Et je l'ai fait en ordre. Je n'ai jamais sorti. Il y en avait quelques-uns qu'il fallait que je refasse à la fin. Quand j'ai parlé à la compagnie Marchand de Feuilles, il y avait quelques illustrations qui n'étaient pas correctes, mais il y en avait juste 2 ou 3 qui n'ont pas rentré dans le livre que j'ai changé. Et la discussion de la couverture était un grand, mais on a laissé la famille de Nelly Arcand décider quelle illustration serait la couverture.
D'accord, donc il y a eu un échange avec la famille de Nelly Arcand?
Oui, c'est Marchand de Feuilles, ils ont parlé avec eux pour la réédition et ils ont choisi un vraiment bon couverture, je pense. Mm-hmm. Mais c'est intéressant qu'ils ont choisi la couverture qui base sur l'amitié parce que lorsqu'on parle de Nelly Arcand, nous concentrons sur ses relations avec des hommes, mais en réalité, elle avait des relations profondes et belles avec des femmes aussi. Mm-hmm.
Dans tes dessins, on voit que tu illustres le texte de manière réaliste, mais il y a aussi des aspects plus symboliques, artistiques. Quel est l'équilibre entre le réel et le symbolique dans tes dessins?
Oui, mais tu sais, le texte est presque poétique. Alors, s'il y avait un moment qui était plus que la vie normale, j'allais avec ça. Je pense que toutes les illustrations, même si c'est réel, c'est dans un monde imaginaire de Nelly.
Très bien. Au-delà du texte, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont guidée dans tes illustrations? Est-ce que le fait que tu sois au courant de l'histoire de la vie de Nelly, tu penses que ça se voit dans les dessins que tu as réalisés?
Mais j'ai vraiment essayé de laisser son biographie derrière moi parce que je pense que, tu sais, elle a à la fois des moments belles et grotesques. Alors, je voulais focusser avec ce parallèle de ces deux différents styles dans le livre, mais je ne voulais pas non plus que ça soit déprimant parce que je ne trouve pas que le texte est déprimant. Et je pense que quand on parle de Nelly Arcand et on regarde son travail, on pense toujours que c'est très sombre, mais je ne voulais pas parce qu'il y a des moments de joie et de douceur dans le texte que je voulais sortir avec les illustrations. Alors, j'ai vraiment essayé de regarder le texte avec des yeux. Comme j'ai dit, je ne l'ai pas lu en avance. Je voulais aller avec peut-être... la tête un peu vide. Alors, j'ai vraiment essayé de ne pas penser trop de l'image qu'on m'a déjà donnée de Nelly Arcand. Moi, je voulais faire une nouvelle image dans ma tête de elle avec ce texte et pas laisser le média que j'ai grandi avec affecter ça.
Comme si on demandait en fait à un enfant d'illustrer un texte avec des yeux nouveaux, complètement naïfs, c'est un peu ça.
Oui, c'est ça. Je voulais être un peu plus naïve avec ça. Ouais.
C'est réussi. Est-ce que c'était la première fois que tu illustrais un texte qui n'était pas à toi, en tout cas?
Non, j'ai déjà fait, mais d'habitude, c'est comme 1 ou 2 illustrations dans un journal. Mais ça, c'était comme vraiment un autre plus grand projet que j'ai fait, les 60 illustrations, c'était vraiment... mais j'adore collaborer avec des gens, alors... ça a vraiment sorti des illustrations que moi, je ne pouvais même pas penser moi-même parce que le texte était tellement riche, alors... T'sais, on ne sait jamais qu'est-ce qui va sortir avec les illustrations, mais quand c'est un texte de quelqu'un d'autre, les inspirations sont tellement plus grandes.
Et justement, est-ce que ça t'a donné envie de collaborer avec d'autres auteurs, autrices et d'illustrer leurs textes?
Oui, c'est sûr.
Complètement.
Oui, 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 complètement. Ouais.
Je ne vais pas te demander si tu as des noms en tête, on garde l'exclusivité, mais très bien. Et justement, tu parlais du fait que tu aimes bien collaborer avec d'autres artistes, tu as collaboré avec Patrick Watson, Laurence Philomène. Est-ce que tu considères cette réédition comme une collaboration entre deux artistes? Malgré le fait que Nelly Arcand ne soit plus là.
Oui, ah, bien sûr. Ouais. Complètement, je le vois comme une collaboration. Je le vois même une collaboration avec l'illustratrice originale, Pascale Brugnon. Oui, je pense qu'on est tous entre... Même si je ne l'ai jamais rencontrée. Alors, c'est facile, tu sais, de le voir comme une collaboration. C'est, le texte n'est pas à moi, alors oui.
En 2022, tu as publié un livre, un recueil d'entrevues avec des artistes qui s'appelle « Est-ce qu'un artiste peut être heureux ?» Je ne vais pas commencer à faire des grandes questions philosophiques, mais on peut faire un lien forcément avec l'histoire de Nelly Arcand. Est-ce que tu considères que c'est un livre qui a une portée plus globale et qui pourrait toucher Nelly Arcand et son récit ?
Oui, mais tu sais, dans le livre « Est-ce qu'un artiste peut être heureux ?», j'ai fait des entrevues avec des artistes québécois en parlant de c'est quoi la joie, est-ce que ça existe. Et je pense que qu'est-ce qui était dans toutes les entrevues, c'est que la joie constante, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de pression de la société d'avoir cette joie constante. Et je pense que des fois, ça peut nous briser. Je pense que... En parlant de la joie, je pense à Nelly et à Arcand et tout ce qu'elle a vécu. Alors, oui, c'est triste. Tu vois, je ne voulais pas cette tristesse quand je suis en train d'illustrer. Parce que des fois, quand j'ai vu le film Nelly, j'étais en livre pour comme 4 heures après. J'étais tellement déprimée. Alors, je ne voulais pas ça. Elle était plus que sa fin. Et son dépression était plus que ça. Alors, je voulais pas que ça soit la focus et la discussion autour du livre. Alors, est-ce qu'un artiste peut être heureux? C'est une question. Et oui, il peut être heureux. Alors, je voulais pas... C'est cette idée de l'artiste torturé, c'est pas bon. Alors, pour créer l'art, il faut être dans une place de joie. Alors, ouais.
Et c'est ce que
qu'est-ce que tu fais
c'est
avec.
Ce que tes dessins font avec le livre de Nelly Arcand. Merci beaucoup, Arizona, d'être venue nous parler de cette réédition. C'est donc disponible dans toutes les librairies. L'enfant dans le miroir aux éditions Marchand de Feuilles. Oui. Merci beaucoup et puis bonne continuation, bonne suite d'illustrations.
Merci.
On continue sur CIBL avec les humoristes Anne-Sara Charbonneau et Noémie Leducroix.
Peu importe si vous offrez en location un condo centre-ville, un chalet ou une maison ancestrale, au Québec, peu importe l'hébergement touristique de courte durée offert, le numéro, c'est obligatoire. Assurez-vous d'obtenir un numéro d'enregistrement, de l'indiquer dans toute annonce sur le web ou ailleurs et d'afficher votre certificat d'enregistrement à la vue du public. C'est la loi. Plus d'informations sur québec.ca/hébergement touristique. Un message du gouvernement du Québec.
Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h.
Ici Maude Desbois. À l'effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5.
Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du conte, j'en mets en scène et surtout, j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à conte. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leurs pratiques et pour vous raconter une histoire.
Voici l'histoire d'une île où s'enlacent les villages de garçons et d'une fille qui vont y faire naufrage. Les échos de la ville se perdent dans les feuillages. C'est la force tranquille du nouveau paysage. Je l'ai prise par la main et emmenait doucement sa robe de satin dans l'air du Saint-Laurent. Au sommet d'un ravin, dans une maison au soleil, comme le bon vin, on vieillira à merveille. Il dort les uns, je garderai mon cœur d'enfant si tu fais revenir le beau temps. Dans les jours de juillet, que peut-il arriver de mal à laisser vivre le temps, notre sport national? Quand le fleuve est docile, nous allons nous baigner pendant qu'ils font la file, les voitures de Beaupré étendues sur la grève, un point dans l'univers. Toi tu chantes aux étoiles les chansons de l'éclair. Il dort les reins, je garderai mon cœur d'enfant si tu fais revenir le beau temps. Puis l'automne rappelle ces oiseaux migrateurs qui s'envolent dans le ciel aux dernières lueurs. La nature est sereine quand l'hiver se prépare, mais je vois une peine dans tes yeux, ton regard. Tu contemples l'horizon et rêves en solitaire d'échanger la maison pour un grand bateau de mer. Si toute chose a une fin, comme la vague rejoint la rive, essuyons nos chagrins, car avant de mourir il faut vivre. Il dort les uns, je garderai mon cœur d'enfant si tu fais revenir le beau temps. Voici l'histoire d'une île où j'ai fait mon naufrage, le cœur brisé en mille morceaux de coquillages. Si mes amours me quittent, moi je resterai à la barre de cette terre où je gravite et serai jusqu'à ma mort. Il dort les uns, je garderai mon cœur d'enfant et même au creux du mauvais temps, je garderai mon cœur d'enfant.
Vous écoutiez David Marin et Las Vegas.
CIBL 105.
Vous écoutiez David Marin avec Las Vegas et on est à présent avec les humoristes Anne-Sara Charbonneau et Noémie Leducroix qui animent ensemble le Women's Planning Show. Bonjour à toutes les deux, merci d'être là.
Hello.
Le Women's Planning Show, c'est un spectacle d'humour féministe que vous avez créé en 2021. Quel est le concept?
C'est un show d'humour féministe, comme tu l'as dit, où on invite des femmes et des personnes de la diversité sexuelle et de genre à venir parler de ce qu'elles veulent sur scène, sans jamais se faire interrompre la parole par un homme cis. C'est comme la spécialité du show. Mais là, évidemment, c'est pas qu'on n'aime pas les entendre parler, c'est juste qu'ils ont déjà tous un podcast. Fait que, c'est vraiment pour laisser la place à ceux qui en ont moins.
Et justement, pourquoi ce nom, Women's Planning? Ça exprime ce que tu viens de dire.
Ouais, ben on s'est inspiré du phénomène social, le Men's Planning. Quand un homme explique à une femme quelque chose qu'elle connaît déjà. Puis on trouvait ça drôle de faire un clin d'œil. Puis on tient à dire quand même ça n'existe pas le woman's planning. Là. On a juste fait un clin d'œil. Comme Noémie disait, on voulait juste laisser la place aux femmes cette fois-ci, puis aux personnes de la diversité sexuelle et de genre à parler, tu sais.
Ouais, c'était comme notre façon de se réapproprier le terme mansplaining en créant le womansplaining puis en laissant la place justement à ces personnes-là à parler. Ouais.
Sachez que j'ai googlisé womansplaining et qu'on trouve une définition qui est totalement l'inverse du mansplaining.
Ouais.
Donc bon, important à rappeler.
Mais je pense que c'est comme sur Urban Dictionary.
Ouais,
c'est crédible. Souvent, c'est comme des masculins fâchés qui vont écrire les descriptions des trucs là-dessus.
Ouais,
là.
C'est ça.
T'as l'air de connaître le site internet. Donc l'enjeu est double. C'est mettre en avant les femmes humoristes et les humoristes de la diversité sexuelle et de genre, mais aussi aborder des sujets qui les concernent. Comment vous avez eu l'idée, tout simplement, de monter ce projet?
C'est sorti de mon cerveau. Mais je venais juste de terminer l'école de l'humour, puis j'étais un peu perdue, je pense. Je suis comme devenue féministe pendant la pandémie aussi, juste après ma formation. Fait que là, j'étais comme, OK.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Qu'est-ce que je fais avec ça? Faut comme, j'ai envie de faire de l'humour d'une nouvelle façon maintenant. Genre, j'ai envie de... Puis, tu sais, c'était difficile. Moi, je trouvais que c'était difficile de trouver ma place. Je me sentais pas nécessairement comme à ma place dans toutes les sphères, dans la sphère humoristique québécoise actuelle. Mm-hmm. Puis, je pense qu'on trouvait ça dommage aussi, comme on n'était pas, mettons, je suis un peu éparpillée, là, mais dans ma cohorte à l'École de l'humour, on était comme 5 filles. Celle-là, Ansa, vous étiez 2. C'est ça. Fait que c'est comme... puis même dans les soirées d'humour, c'est difficile de se rassembler ensemble puis de se voir puis de se croiser. Fait que je pense qu'on voulait créer un espace... où est-ce qu'on pouvait se rencontrer, échanger, puis comme...
Oui, parce que souvent, ben moi, pendant un peu avant, puis pendant ma formation, tu sais, je faisais des shows dans des bars aussi, puis on était souvent seulement une fille ou personne de la diversité sexuelle et de genre, fait qu'on peut pas vraiment... ça fait en sorte qu'on se rencontrait pas, tu sais. Mm-hmm. Puis c'était entre autres pour ça. Puis aussi... Bien, vu qu'on est féministe, on trouvait que le médium de l'humour est quand même vraiment accessible, tu sais. Mm-hmm. Puis populaire aussi. Mm-hmm. Fait qu'on se disait qu'on voulait rendre le féminisme accessible. Mm-hmm. C'est sûr que c'est un gros défi, mais évidemment, c'est juste à travers les vécus personnels des humoristes. Mais on trouvait que, tu sais, de redorer l'image du féminisme aussi, de trouver ça cool, tu sais. Mm-hmm. Puis que, ouais, on veut juste être comme la première porte du féminisme. Puis après ça, il y a des essais vraiment plus en profondeur puis intéressants. Mais c'est ça que je trouvais le fun avec le médium de l'humour, c'est que c'est tellement accessible.
Et donc, t'as embarqué dans son projet, c'est ça?
Ah oui, ouais, ben c'est parce que Noémie me dit « Ah, j'ai un projet, c'est full embryonnaire. » Puis finalement, c'était tout le projet. fait que oui, tout de suite. Puis on a pitché ça aux Zoufesses, qui était à l'époque... le show était juste à côté d'ici, là, au Monument national. Puis on a pitché ça, ça s'est sold out en... Bien, le Zoufès a accepté, puis ça s'est sold out en très peu de temps, là. C'était vraiment...
Il y avait une vraie demande.
Là, tout de suite après, on a senti que c'était nécessaire d'avoir quelque chose comme ça dans le milieu, puis comme la réaction était tellement bonne, on était comme, OK, on a quelque chose là, on veut amener ça partout au Québec.
Et donc, durant ces représentations, des humoristes invités viennent parler d'un concept féministe basé sur leur vécu. Vous avez notamment accueilli Doua Kachach, Garyana Jean-Louis, Michel Desrochers ou encore Catherine Levac. Comment vous choisissez vos invités?
Oh my God!
Est-ce que c'est seulement vos copines ou...
Non. On aime faire découvrir des talents aussi, là. Fait qu'on fait nos recherches, on va à des soirées, on se fait écrire aussi. Puis on essaie tout le temps, sur un spectacle, d'avoir une certaine diversité, là, dans les sujets, dans les, comme, qui vient. On essaie d'avoir, comme... Fait que c'est ça. Je pense que créer une soirée diversifiée, c'est un peu ça qui, comme, nous fait choisir nos invités, mettons. Mm-hmm.
Est-ce que c'est des humoristes qui déjà abordent des sujets féministes ou c'est un exercice parfois nouveau pour elles?
Bien, en fait, souvent, c'est une bonne question parce que souvent, on nous dit « Ah non, mais je suis... » Bien, souvent, au début, là, parce que là, ça fait quand même 3 ans qu'on le roule, fait que les humoristes le connaissent. Mais au début, je me rappelle qu'on nous disait « Ah non, mais moi, je suis pas féministe. » Puis j'étais comme « Ah, mais je t'ai vu faire ce numéro-là. » Puis pour moi, c'est vraiment féministe que tu parles de cette... Tu sais, juste ton angle de vie, vu que t'es une femme ou une personne de la diversité sexuelle de genre, dès que tu parles de toi, souvent, il y a des angles féministes sans que tu le veuilles, tu sais. Mm-hmm. Fait que je me rappelle, ça a été beaucoup de discussions avec les humoristes, puis on...
Vraiment, là, des artistes qui venaient puis qui étaient comme, mais là, ça va-tu rire? Je sais pas, là, si c'est assez pour votre show. Puis comme, peut-être que nous, dans notre humour, on est un peu plus radical, mais comme, c'est plus l'idée de créer un espace où est-ce que, comme... Les numéros d'humour de cette personne-là vont être célébrés à leur juste valeur. Mm-hmm. Peu importe, parce que des fois, quand t'es dans une soirée puis que t'es, mettons, la seule fille, il y a comme une pression, premièrement, de bien performer vu que t'es la seule. Faut que tu, comme, fasses tes preuves, mais aussi, comme, les sujets, tu sais, c'est pas toutes les crowds qui réagissent bien à, comme, des histoires de Diva Cup ou, tu sais, comme, c'est comme... On accepte moins ça, peut-être. Fait que je pense que c'était juste au Women's Planning. C'est juste que c'est une crowd qui veut entendre parler de tout ça. Fait que je trouve que ça laisse l'espace pour que, je sais pas, les numéros soient appréciés à leur juste valeur. Fait que
Et vous ressentez vraiment cette différence de public plus ouvert à vos blagues?
Oui. C'est un commentaire du public qu'on se fait souvent dire. C'est, oh, moi, j'aimais pas ça, les soirées d'humour. Puis là, maintenant, j'aime le woman's planning.
Mm-hmm. Oui, c'est ça.
Fait que oui, je pense que ça amène une crowd qui n'allait pas voir les soirées d'humour habituellement parce
qu'ils ne se sentaient pas identifiés à ce qu'ils entendent sur scène. Tu sais. Si c'est principalement juste des hommes blancs qui parlent. Tu sais, on peut rire, mais on ne relate pas nécessairement à ce qui est dit. Puis je pense que ça fait du bien à beaucoup de gens.
Ce sont donc de nouvelles invitées, de nouveaux sujets à chaque fois. Le spectacle se renouvelle sans cesse. Ouais. Est-ce que c'est un défi pour vous de se renouveler à chaque soir?
Bonne question. Mais c'est une bonne question.
Oui.
Oui et non, je dirais. Ouais. On dirait.
Parce qu'il y a tout le temps, vraiment, c'est vraiment mélangé la salle. Il y a vraiment souvent des nouvelles personnes qui n'ont jamais entendu parler du spectacle. Fait que, tu sais, on a comme une façon comme plus structurée de dire qu'est-ce qu'on de présenter le spectacle, mais comme on en a fait, je pense que j'ai calculé hier, je pense qu'on est rendu comme à 60-70 shows depuis qu'on a commencé. Okay. Fait que oui, c'est comme on veut pas tout le temps faire les mêmes blagues, puis il y en a plein de blagues de, tu sais, c'est ça se renouvelle tout le temps avec qu'est-ce qu'on vit aussi là.
Mais vu que les artistes sont tout le temps différentes, tu sais.
Ouais.
C'est sûr que le show va être différent là, tu sais. Mais ouais, fait que oui, non.
Ouais.
Ouais. Et alors, quels sont les sujets abordés en vrac, comme ça? La Diva Cup, t'as dit?
Oui, la Diva Cup.
La queerness.
Ouais, le catcalling.
Ouais.
Ouais.
La grossophobie.
La grossesse.
La grossesse.
Ouais, ouais, on a des histoires de sexualité.
La parentalité, en général.
Ouais. C'est vraiment varié. Il y a autant de sujets qu'il y a de personnes qui viennent sur le spectacle. Ouais, parce que chacun des vécus est tellement personnel. Puis les gens ont tellement vécu des choses différentes. Mais qui se ressemblent, tu sais, en même temps, comme on a toutes des histoires uniques, mais on a toutes vécu quelque chose de semblable à ce qui est raconté, tu sais, à différents niveaux, là. Fait que c'est vraiment varié.
Ce spectacle, il vise avant tout à faire rire, mais pas seulement, on y reviendra. Est-ce que les enjeux féministes sont un bon terrain d'humour, de rigolade?
Ben oui, mais c'est parce que ça dépend par où que tu le prends, tu sais. Je pense que nous, on a décidé d'avoir. D'y aller plus avec toi, tes sujets, à cause de ton vécu, ça l'ouvre une porte à un angle féministe. T'sais. Fait que, mettons, quand on dit, on parle de grossophobie, c'est pas nécessairement que l'humoriste va arriver puis va dire, tu sais, je vous parle de grossophobie présentement. T'sais, c'était je sais pas si ça fait du sens.
Ouais, c'est comme implicite.
C'est implicite à son vécu, les violences par rapport à la grossophobie, mais ça, c'est comme. Oui, c'est drôle parce que c'est comme, t'sais, c'est comme un doute qui va parler de à quel point sa blonde est conne. Ben ça, c'est son vécu. Ça, c'est sexiste pour moi, même s'ils vont pas le dire. Mais genre, fait qu'un angle féministe, c'est comme, je sais pas si ça fait du sens là, ce que je dis, mais c'est juste que c'est comme intrinsèque un peu.
Ouais,
ça va venir de soi, tu sais. Parce que on est tellement proche de nous, tu sais, on fait pas vraiment des personnages en stand-up. Fait que tout de suite, on va connaître tes valeurs. Fait que c'est facile de parler d'enjeux féministes quand tu l'es.
Ouais, par exemple, moi, je parle de, entre autres, de j'ai une soeur jumelle, puis on se fait souvent demander si on veut faire des trips à trois. Puis, tu sais, déjà, ça a un angle féministe parce que ça n'a pas de bon sens qu'on nous demande ça juste parce qu'on est des soeurs. Puis, tu sais, c'est une fétichisation de la sexualité entre jumeaux avec des frères et sœurs. Fait que déjà, ça, quand je parle de ça, j'ai pas besoin de dire, tu sais, c'est inacceptable, on le comprend que, comme, c'est lourd, puis comme, en tout cas, ça a un angle féministe.
Tous ces sujets-là, ils sont pas drôles sur le papier, et pourtant, vous arrivez à faire rire des foules, en tout cas, on dirait. Comment c'est possible de rire à partir de sujets qui ne sont pas drôles?
Wow! Je sais pas comment.
Mais moi, c'est comme, l'humour, pour moi, c'est comme un mécanisme de défense, c'est aussi un coping mécanisme, c'est comme ma façon de process mes émotions. Fait que moi, c'est comme. C'est la façon que j'ai trouvée pour me réapproprier les histoires qui me sont arrivées, puis comme mon vécu, puis les choses moins fun qui sont arrivées. Fait que, je sais pas, c'est facile pour moi de comme d'aller dans l'ironie avec ces choses-là, puis comme c'est délicat, là, souvent. T'sais, on fait un trigger warning, un avertissement en début de spectacle, parce que évidemment qu'on essaye de rendre ça drôle, mais ça vient effectivement avec un défi. Puis des fois, les sujets, si on parle de troubles alimentaires ou de harcèlement ou d'agression sexuelle, c'est lourd. Fait que le public est averti que ça se peut que même si on essaye que ce soit drôle, ça choque ou ça fasse revivre des émotions. Mais je pense qu'il y a tellement comme un esprit de solidarité dans la salle que les gens sont comme... Tu sais, les gens sont avertis que c'est ça qu'ils s'en vont recevoir. Puis je pense que c'est facile d'en rire parce que le fait que quelqu'un en parle sur une scène devant comme des centaines de personnes, ça libère quelque chose. Mm-hmm. Le fait que comme... Je sais pas, je trouve que c'est audacieux que quelqu'un raconte ça, que quelqu'un se mette vulnérable au point d'essayer de faire des blagues avec quelque chose comme ça. Je sais pas, ça crée quelque chose de spécial.
Vraiment. Puis Anna Gatsby, on en parlait dans son show, là, mais c'est quand des sujets comme... Ben, elle parlait pas des sujets féministes, mais je veux dire, tu sais, l'humour, c'est de mettre une tension puis de relâcher la tension, tu sais. Mm. Fait que quand ton sujet est plus difficile à approcher... Mais la tension est plus grande. Fait que quand tu réussis à faire un gag qui va faire rire, c'est que la tension est tellement relâchée que des fois, c'est ça. Je trouve, moi, en tout cas, perso, j'aime vraiment mieux les humoristes qui parlent de sujets qui sont un peu plus difficiles ou qui sont vraiment vulnérabilisants pour la personne. Parce que ça met une mini-tension, mais en même temps, je veux la relâcher puis, tu sais, être avec la personne. Fait que, ouais.
Puis des fois c'est pas toujours le gag du siècle qu'on fait. Là, c'est, des fois, c'est maladroit, puis des fois, on se trompe aussi, mais il y a comme, je sais pas, dans la salle, il y a cette compréhension-là que, on parle de ça, fait que c'est comme, c'est vulnérabilisant, fait qu'il y a comme un support, vraiment. J'ai l'impression.
Vous êtes donc les animatrices de la soirée. Quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous faites tous ces soirs-là?
Mais spécifiquement, là, on embarque les deux sur scène, sur une musique.
Souvent, on a des petits jeux de préparer, des petits concours. Dans le fond, comment une soirée va se dérouler, c'est qu'on anime les deux, Anne-Sarah et moi, au début. Puis après ça, on va présenter à tour de rôle les humoristes qui viennent. D'habitude, c'est moi qui reviens. Je ne fais pas de numéro sur la soirée, mais je reviens entre chaque personne pour présenter la prochaine.
Ouais.
Puis j'en profite pour faire des petites blagounettes.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, si vous n'êtes pas frustrée de ne pas faire de show sur ce thème-là, même si vous en faites chacune de votre côté. Mais vous avez quand même l'occasion de caser quelques blagues.
Ouais, toi, tu fais un numéro aussi. Moi, je fais tout le temps un numéro.
OK.
C'est parfait. Parce que je suis égoïste. non, mais parce que j'aime ça faire des numéros. Fait que, puis Noémie, si un jour tu voulais en faire.
Oui, j'en faisais au début. Je pense que moi, j'ai trouvé quelque chose que je trouvais intéressant dans l'animation, puis dans... C'est quelque chose que je travaille dans mon processus créatif de connecter avec les gens à travers mon art. Fait que moi, ça m'aide vraiment à... Tu sais, je parle beaucoup aux gens, puis comme je suis TDA aussi, là, fait que dès qu'il se passe quelque chose dans ça, je suis comme, je réagis, puis je veux comprendre c'est quoi que les gens vivent pour essayer justement que le spectacle soit comme en cohésion avec ce que les gens vivent. Fait que c'est un beau défi, puis... T'sais, on s'autoproduit, là, fait qu'on on fait tout sinon. Là, j'ai même créé des petites playlists que vous pouvez suivre sur Spotify. Là. Mon nom Spotify, c'est Boubourella. les playlists s'appellent Queens. Puis il y a 1, 2, 3. Puis en tout cas, c'est juste de la musique qu'on met avant. T'sais, c'est juste comme toute la soirée, comme tellement travaillée pour que ce soit empouvoirant.
Très bien. Merci pour la playlist en exclusivité. Et donc, votre spectacle, il est en tournée dans tout le Québec, à Montréal, bien sûr, à Gatineau, à Repentigny, en Abitibi. Pourquoi parcourir tout le Québec avec ce concept-là?
Ah, ben parce qu'on voulait rencontrer les féministes de partout. Là. Puis souvent, j'ai l'impression que ce genre de show-là reste à Montréal. Genre, ça devient comme niche... une niche montréalaise, mais nous, on trouvait qu'avec notre but principal que je disais tantôt de vouloir rendre le féminisme accessible, je pense que c'est important de se promener à travers le Québec. T'sais.
Vraiment?
Évidemment, on est plus à Montréal un peu parce que c'est plus facile pour nous, mais c'est vraiment... À chaque fois qu'on va dans ailleurs, je capote.
Puis souvent, les gens sont comme, « Ah, vous allez en région? C'est comment en région? T'sais, est-ce que les salles sont pleines? Est-ce qu'il y a une réaction? » Puis il y a des féministes partout. Mm-hmm. Nos salles sont pleines partout. Puis les gens se déplacent. Puis souvent, quand on va dans des endroits où est-ce qu'il y a moins de shows comme ça, où est-ce que c'est moins accessible, les gens sont tellement reconnaissants. Ça fait tellement du bien que ça nous prouve qu'il faut juste continuer d'en faire puis de rendre ça accessible.
Vous parliez tout à l'heure de ce problème d'inclusion dans le milieu de l'humour au Québec. Anne-Sarah, tu dis notamment que les femmes humoristes ont de la misère à prendre leur place. Noémie, tu dis qu'il y a beaucoup de place pour les hommes médiocres, dans le sens, je te rassure, pour ceux qui testent les jokes, il n'y a rien de méchant. Selon vous, il y a un problème avec les femmes et l'humour au Québec?
Mais je pense que ça tend vraiment à changer là, dans les dernières années. Je pense que, tu sais, peut-être, Anne-Sarah, tu fais plus de soirées de bord que moi, là, mais il y a aussi de plus en plus de soirées qui existent, qui sont comme inclusives, exclusives, tu sais, féminines. Je pense que clairement, il y a des questions qui sont en train de faire surface dans le milieu de l'humour. Ça tend à changer. Effectivement, c'est encore principalement dominé par les mâles blancs. Mais
ouais, le quota de une humoriste par soirée ne suffit pas, clairement.
Ben, c'est parce que c'est sûr que ça l'aide pas. T'sais, ça met un bâton dans les roues, je trouve, d'avoir juste une femme. Mais ça y met la pression. Puis en plus, c'est comme si, t'sais, rapidement, c'est un boys club, là, l'humour. T'sais, fait que c'est dur de t'sais, l'humour aussi, c'est de se faire des contacts. C'est de, en tout cas, je trouve que ça met vraiment un bâton dans les roues. Mm-hmm. Mais au moins, c'est rendu la norme d'avoir une fille. Ouais. Parce qu'avant, ça ne l'était pas. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que ça évolue. Puis je vais plugger ma soirée à l'idéal avec Coco, là, mais tu sais, nous, il y a des... ça s'appelle la soirée à l'idéal, mais non, la soirée idéale, en tout cas, whatever. Mais c'est, nous, on essaie on a au moins minimum 2 filles sur 4. La majorité du temps, c'est 3 sur 4.
Mm-hmm.
Ou au moins 3 femmes puis de personnes à diversité sexuelle et de genre. Puis on est en train de prouver que ça se peut une saison régulière à chaque semaine qui a plus qu'une fille sur le line-up. Mais il y a d'autres soirées un peu aussi dans les bars à Montréal. Puis ça n'existait pas avant que je fasse, pendant que j'étais à l'école de l'humour. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que je pense que ça va vraiment changer. T'sais, c'est juste que là, présentement, c'est comme ça commence plus petit, mais je pense que dans plusieurs années, on va voir l'impact que ça va avoir, mettons, au Gala des Oliviers, dans les prix, puis ces affaires-là. Parce que c'est ça, je pense qu'il y a de plus en plus d'espace pour que les femmes puis les personnes de la diversité sexuelle de genre s'expriment puis s'améliorent plus vite.
Ouais, mais je pense que de plus en plus, les gens créent leurs opportunités. Vu que c'est plus difficile, mettons, d'être inclus dans qu'est-ce qui existe déjà.
Ouais.
Les gens créent leurs soirées, les gens créent leurs niches, créent leur public. Fait
c'est comme l'avantage des réseaux sociaux aussi.
Ouais.
Il y a genre de plus en plus de personnes qui sont comme moi. Je peux partir ma propre affaire parce que j'ai une communauté déjà sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai pas besoin de me prouver à l'industrie, tu sais. Fait que ça l'aide beaucoup pour...
C'est quelque chose qui revient beaucoup parmi les humoristes, notamment avec Eric Pritch, avec qui on avait parlé du fait qu'il s'était vraiment lancé sur les réseaux sociaux parce qu'il ne pouvait pas se lancer en télé. Donc c'est quand même quelque chose qui a l'air de revenir dans ce milieu-là, le fait de se construire seul, notamment à travers les réseaux sociaux.
Vraiment,
ouais. C'est une bonne chose.
Et alors la suite, c'est quoi?
Oh my God! Ben, tellement d'idées, on a tellement d'idées.
Ouais.
Quoi faire? Moi, j'aimerais ça me promener plus, là, tu sais, au Québec.
On a des plans aussi d'aller à l'extérieur du Québec. À l'extérieur.
J'ai entendu dire que tu parlais coréen.
On dit que t'as entendu ça. J'essaye, là. Je pourrais pas dire que je parle, là, mais j'ai des petites leçons du Duolingo, là. Mais idéalement, on aimerait ça amener ce spectacle-là ailleurs, tu sais, rencontrer. Les féministes à travers le monde, tu sais, je dirais que c'est comme un plan de vie, peut-être. Ouais. Je pense que là, ça fait comme... Tu sais, c'est comme la première année, j'ai l'impression qu'on en profite vraiment. Là, tu sais, on a travaillé comme de façon acharnée à faire tellement de spectacles dans les premières années pour comme se faire connaître puis comme se bâtir comme une communauté. Là, j'ai l'impression qu'on en profite un peu. On est comme un peu plus stable. Fait que la suite, ça va être des beaux projets, des belles collaborations, je pense.
Ouais.
Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler de votre spectacle. C'est donc le Women's Planning Show. Il y a de nouvelles dates qui sont ajoutées régulièrement à Montréal, au Québec et puis partout dans le monde bientôt. Votre Instagram pour suivre vos dates, c'est le Women's Planning Show, tout attaché. Merci beaucoup à toutes les deux et puis bonne continuation dans l'humour.
Merci pour l'invitation.
Avec plaisir. On continue avec la chronique d'Amélie Egerstoffer.
Guys.
pesanteur et d'amnésie jusqu'à la fin de l'avant-midi, loin de tout ce qui se passe ici.
Et on reçoit pour finir notre chroniqueuse Amélie Egerstorfer pour parler des joueuses du Canadien de Montréal qui jouent dans quelques jours au Centre Bell, une première pour cette jeune équipe tout simplement.
Exactement. Cette semaine, c'est super intéressant pour le hockey féminin à Montréal, car normalement, l'équipe joue dans l'auditorium de Verdun. Et ce samedi, le 20 avril, elles vont pour la première fois aller jouer au Centre Bell. Donc, ma première question de mon petit quiz de hockey pour toi, c'est connais-tu le nom de l'équipe de hockey féminin de Montréal?
Je crois qu'on cherchait un nom à un moment donné. Mm-hmm. Je ne sais pas s'ils l'ont trouvé, mais je serais ravie de l'apprendre.
Mm-hmm, exactement. Actuellement, elle s'appelle PWHL Montréal.
Ouais, ok.
Donc PWHL, ça veut dire Professional Women's Hockey League, donc Ligue professionnelle de hockey féminin, suivie par le nom de la ville, mais c'est correct. Ils sont toujours en train de chercher un surnom.
Ok, c'est ça.
Exactement.
D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des pistes, des idées un peu où on
Je crois que tu peux les appeler.
Ah bah très bien, écoute, c'est ce que je ferai.
Et proposer. Donc la PWHL, que crois-tu quand elle a été fondée?
Il y a quelques mois, non?
Il y a quelques mois.
La Ligue de hockey professionnelle féminine?
Exact.
Ouais, je dirais en janvier.
Waouh, t'es vraiment... C'est pas mal. C'était en 2023.
Ouais.
Donc, la Ligue professionnelle de hockey féminin, c'est une ligue professionnelle sur glace en Amérique du Nord. Et elle est unique dans son genre, qui réunit les meilleures joueuses du monde. Et c'est vrai que c'est super récent qu'elle s'est composée. Et ce janvier, c'est le départ de la Ligue. Mais elle a été fondée en 2023.
Très bien.
Elle est actuellement composée par 3 équipes au Canada et 3 équipes aux États-Unis. Veux-tu deviner quelles villes sont participantes?
Tu me coinces. Normalement, c'est moi qui pose les questions. Alors, on va dire Montréal, Toronto, Ottawa.
Exact.
OK. Et aux États-Unis, aucune idée, on va dire New York.
Oui, c'est dans le nord des États-Unis.
Boston.
New York, Boston.
Ah, je suis sur un sans faute. Et
c'est dur.
Et la dernière, allez, on va dire San Diego. Rien à voir.
C'est Minnesota. Mais déjà, c'est pas mal. Je suis super contente. Donc voilà, la ligue, elle est toute neuve. Et pour commencer sa première saison, il fallait créer de nouvelles équipes.
Bien sûr.
Donc chaque équipe a pu recruter les joueuses par un repêchage. On peut s'imaginer que c'est comme à l'époque à l'école, dans les classes de sport, il y a eu les chefs d'équipe et l'une après l'autre sont placées dans les équipes.
Très bien.
T'as fait ça dans les classes
bien
de sport?
Bien sûr, et j'étais toujours la dernière choisie.
Oh non!
La première, bien sûr.
Super. Donc comme ça, il y a eu pas mal de joueuses sélectionnées. Et les joueuses qui ont eu un ancien contrat en cours, qui ne sont pas été engagées pour la nouvelle saison, elles ont reçu une indemnité de départ et des avantages sociaux.
Ok.
So, Charline, tu es une petite experte déjà. Connais-tu un peu les règles au hockey?
Il y a un rond.
Une rondelle.
Rondelle, très bien. Il y a des bâtons et puis il faut se le passer et puis le mettre dans les cages, tout simplement.
Tout simplement, exactement. Donc, le règlement de la PWHL, il est basé sur celui de la Ligue nationale de hockey des hommes, mais il présente des particularités.
Ah oui.
Okay. Les points de la Ligue sont attribués selon un système 3-2-1-0, donc 3 points pour une victoire dans le temps réglementaire, 2 points pour une victoire en prolongation ou en tir de pénalité, 1 seul point pour une défaite en prolongation et 0 point pour une défaite dans le temps réglementaire.
D'accord.
Et si une équipe marque un but en infériorité numérique, une joueuse peut directement revenir en jeu depuis le banc de pénalité. Et contrairement à la pratique internationale du hockey sur glace féminin, la PWHL autorise certaines formes de body check ou mise en échec. Tu sais ce que est une mise en échec?
Je t'avoue que non, mais je suis ravie que tu sois là.
Tu veux deviner?
Ah, une mise. Attends, j'en ai aucune idée.
Body check.
Body check, c'est des contacts. Ouais, c'est la castagne.
Exact. Une mise en échec en hockey sur glace est seulement conforme si quelques règles sont respectées parce que c'est super dangereux, donc c'est quand on va se battre.
D'accord.
Le check peut seulement être effectué contre une joueuse qui est en possession de la rondelle. Sinon, je n'ai pas le droit.
Ok. Donc, il y a de la bagarre, mais avec des règles.
Avec des règles, très oui. Bien. C'est un peu comme à la boxe.
Ouais.
Une attaque par derrière, dans le dos ou sur la tête de la joueuse n'est pas autorisée.
D'accord.
Et le check doit absolument être effectué sans utilisation du bâton, du poing, du casque, du genou ou du coude.
Bah avec quoi on tape alors?
Les épaules, okay, le corps, voilà.
Merci.
Charline, tu es chaud. T'as bah, déjà joué hockey toi?
Non.
Ok. Il y a aussi quelques autres règles à suivre. Au moment du check, la joueuse qui fait la mise en échec, elle ne doit pas sauter. Donc, les patins doivent être en contact continu avec la surface de la glace. C'est pour les raisons de sécurité. Et le plus important, une joueuse ne doit pas tenter de blesser une adversaire.
Bien sûr.
Super
ça, important. Ça paraît évident.
Parce que les blessures les plus courantes sont des fractures, des commotions cérébrales et des coupures. Donc, c'est assez...
C'est risqué.
C'est super risqué, voilà. Et il y a aussi des gens qui s'y opposent aussi à cette pratique violente. Et pour les enfants, c'est toujours interdit.
Très bien.
Très bien, voilà.
Tant mieux pour les enfants.
Tant mieux.
Vivement qu'ils grandissent.
C'est ça. Es-tu prête pour les chiffres?
Bien sûr.
Que crois-tu? Combien gagne une joueuse pro de hockey par année en dollars?
Oh là là.
Environ
200 000.
200 000?
Ouais.
All right. Le salaire minimum en 2023 pour une joueuse de la PWHL est de... 35 000 dollars.
35
000?
Mais
en moyenne, elle touche environ 55 000 dollars.
Mais comment ça? C'est moins que le salaire moyen. Et elles ont d'autres activités à côté ou... Je m'inquiète pas pour elles, mais c'est quand même assez impressionnant.
Pour te rassurer un peu, il y a aussi des bonus, comme si tu gagnes un prix comme meilleure attaquante, défense, gardienne de la Ligue, tu recevras environ 4 000 dollars de plus. Ou si ton équipe participe aux éliminatoires, etc., il y a encore des bonus qui peuvent toucher environ 100 000 par équipe.
D'accord.
Donc, c'est divisé par les 23 ou 28 joueuses.
D'accord.
Donc, Charline, comment tu trouves ça? Tu auras envie d'être une joueuse de hockey, toi?
Je pense que je préférais être un joueur parce qu'il gagne plus. mais écoute, ça donne envie, surtout pour les contacts. Donc, je suis tentée.
Super. Ah, toi, tu veux juste être joueuse pour les mises en échec, c'est ça?
Bien sûr.
Donc, je n'ai pas pu te convaincre. Ok, je vois ça. Pour finir un peu ma chronique sur le hockey féminin, je voulais aussi te dire que les dernières semaines, il y a aussi eu le championnat du monde aux États-Unis. Qui a joué la finale et qui a gagné le championnat du monde? C'était il y a 2 jours, je le sais. 14 avril.
Tu c'était me pièges. Alors, le Canada et la Suède, la Finlande. Je ne saurais pas dire.
Qui a gagné?
Le Canada.
Le Canada. Félicitations à l'équipe du Canada. Les joueuses pro hockey du Canada ont gagné. Ils ont gagné 6-5 contre les États-Unis.
D'accord.
C'était un peu prévisible.
Ah bah oui, mais bon, moi je suis allée chercher loin. Je me suis dit, c'est une question piège, mais pas du tout.
Mais oui, mais tu avais quand même un peu raison. La Finlande, c'était 3e. Et République tchèque, 4e.
Bah oui, j'étais tout proche.
Ouais. Mm-hmm. J'étais triste parce que les Allemandes, elles ont perdu. Mais voilà, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Dans l'équipe nationale de Canada, il y avait aussi 5 joueuses de l'équipe de Montréal. Mm-hmm. Donc bravo. Encore mes félicitations.
Très bien. Merci beaucoup, Amélie, pour cette chronique. Et donc, si vous êtes intéressé par le match qui s'en vient au Centre Bell, ça se passe ce samedi 20 avril et c'est contre Toronto, c'est ça. Un petit derby, deux équipes rivales. Merci beaucoup, Amélie. Et puis, bon match.
Bon match à vous. Ciao.
On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités et notre chroniqueuse du jour d'être passée à l'émission, ainsi que Michaël Asselin pour la mise en onde et les choix musicaux. Restez branchés sur CIBL parce que demain, un beau programme s'en vient avec des chroniqueurs et des invités de qualité. Et puis n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les plateformes et sur notre site web. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
Que je pense, je veux rien savoir. Tu me demandes combien je dépense, je veux rien savoir. tu me demandes de faire du sens, je veux rien savoir. Mais quand tu me demandes de t'aider, ben c'est une autre histoire. Mais quand tu me demandes de t'aimer, ben là, c'est une autre histoire.
Vous cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
Chat d'avance. Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIBL 101.5 Montréal.
Décadence. 3 heures de musique, deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence. Les vendredis soirs, dès minuit, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre week-end. CIBL, au cœur de la décadence.
CIBL 105, Montréal.
Vivre Montréal.
La radio communautaire, parce que les gens se sentent impliqués, là, comme